Chapitre 70. Les jambes endolories par la longue descente vers les catacombes, Magda, au bord de l'épuisement, faillit tomber en plusieurs occasions. Sa fatigue, elle le savait, n'avait rien de normal, et dans cet état, la seule idée du trajet de retour lui donnait des sueurs froides. Mais Rit avait 100 fois raison. Il lui fallait du repos car la guérison ne suffirait pas. À de nombreux détails dans le comportement du sorcier, sans oublier certaines phrases allusives, Magda avait compris que le processus de création de la clé, fondé sur son sang et alimenté par ses forces vitales, était passé très près de lui coûter la vie. Mais avant de songer à se reposer, elle devait tout tenter pour parler avec la magicienne ennemie. Le labyrinthe de tunnels étroits dans lequel Merit et elle s'étaient engagés faisait irrésistiblement penser à une taupinière. Avec Tilly, Magda avait emprunté un autre chemin pour atteindre l'endroit où reposaient les morts. Un niveau des sous-sols où des sorciers menaient de mystérieuses expériences. C'était également là qu'Isadora avait eu son fief. Au fil du temps, les premières catacombes creusées sous la forteresse avaient fini par être pleines. Afin de fournir une dernière demeure aux nouveaux morts, il avait fallu creuser plus profondément. En conséquence, les tombes les plus récentes se trouvaient sous les plus anciennes. Les toutes premières dataient, disait-on, de plusieurs milliers d'années. Une exagération? Peut-être, mais on pouvait en tout cas placer plusieurs siècles en arrière la date de leur création. La zone où Merit et Magda avançaient était très récente, comme en témoignait la puanteur ambiante. Malgré l'odeur de la moisissure et de la fumée des torches, sans oublier une multitude de fioles d'huiles aromatiques, les relents de décomposition prenaient les visiteurs à la gorge et ne les lâchaient plus. En passant devant certaines salles, Magda avait plus d'une fois failli vomir. Pourtant, elle n'avait pu s'empêcher de jeter un coup d'œil dans ses caveaux, comme si le tueur mort avait risqué d'en sortir à tout moment. À la lumière du globe lumineux invoqué par Merit, elle avait aperçu des corps boursouflés, à la bouche grotesquement ouverte, comme leurs yeux qui ne verraient jamais plus rien. Quand la chair se décomposait, un processus pourtant tout à fait naturel, sa destruction inexorable ne ménageait ni la beauté fanée des êtres ni leur dignité. Son enveloppe charnelle réduite en cendres, Barakus ne connaîtrait jamais ses ultimes humiliations, et sa veuve aurait presque eu envie de s'en réjouir tant le spectacle qu'elle découvrait la révulsait. À n'en pas douter, si la prison était située sous ce cauchemardesque charnier, ça n'avait rien d'un hasard. Lorsqu'un prisonnier traversait ces tunnels, en route pour une cellule, cet aperçu de ce qu'il attendait s'il jouait les trublions devait avoir un effet hautement éducatif. Quant aux condamnés à mort, on pouvait difficilement trouver mieux pour faire naître en eux une terreur salutaire et méritée. À condition qu'ils soient coupables. Qu'un meurtrier souffre ainsi n'aurait pas arraché une larme à Magda. En revanche, l'idée qu'un innocent puisse subir ses tourments lui glaçait les sangs. Hélas, en matière de justice comme pour le reste, rien n'était jamais établi à 100%. Dans de nombreux cas, on pouvait légitimement se demander si le vrai coupable n'avait pas échappé au châtiment en voyant un pauvre malheureux le subir à sa place. Alors que cette infinie exhibition de cadavres menaçait de lui donner le tournis, Magda manqua trébucher, se rétablit de justesse et s'immobilisa, pétrifiée par l'idée qui venait de lui traverser l'esprit. Comment avait-elle pu ne pas y penser plus tôt? Le cœur battant la chamade, tremblant comme une feuille, elle sentit une sueur froide couler entre ses omoplates. « Que t'arrive-t-il ? » demanda Merit en orientant son globe lumineux pour mieux voir la jeune femme. Magda regarda autour d'elle, tant de niches murales où se tapissaient des morts. « Grunwall nous a dit que l'assassin d'Isadora court toujours. »«
Oui, c'est ça. » »«
Cette nuit-là, quand je fuyais dans le labyrinthe après le meurtre, j'ai fini par rencontrer des sorciers. Ces hommes se sont séparés pour fouiller les tunnels. Alors que le don leur permet de détecter toute créature vivante, ils n'ont rien trouvé. » Tu me suis?
Pas vraiment.
Et comment est-ce possible?
Merit,
comment un être vivant peut-il se cacher ainsi? Je veux dire, se rendre indétectable par le don. Je sais que les sous-sols sont un véritable dédale, mais des dizaines de patrouilles les ont passés au peigne fin. Comment le tueur les a-t-il évités? Il frappe et se volatilise aussitôt, trompant aussi bien les soldats que les sorciers.
C'est difficile à croire, je sais, mais...
Et s'il était vraiment un tueur mort?
Merritt jeta un coup d'œil autour de lui.
« Tu veux dire vraiment mort, comme ces cadavres autour de nous ?»«
Tu as vu comme moi tous ces corps à divers stades de la décomposition. Les plus récents ne t'ont-ils pas paru correspondre à ma description du tueur ?»«
Si pour se cacher, l'assassin d'Isadora était simplement allé reprendre sa place auprès des autres cadavres.
Comment le distinguer de ceux-ci ? Par où commencer les recherches et à quels indices se fier ?»«
Le sang, » dit Merritt. Le sang frais des victimes sur le corps du tueur.
Oui, mais personne n'a examiné les cadavres en quête de sang frais. Souviens-toi, on n'a pas pris mon témoignage au sérieux.
C'est vrai. Après le premier meurtre, puis tous ceux qui ont suivi, les soldats ne se sont pas intéressés aux dépouilles.
Et le sang, cet indice précieux, n'est pas resté frais longtemps. Après quelques heures, il serait probablement facile de le confondre avec les fluides qui suivent naturellement des morts. Tu imagines? Le sang des victimes noyé dans la putréfaction de leurs bourreaux? Regarde ces cadavres. Sur la plupart, il serait impossible de repérer du sang frais, même en le cherchant spécifiquement, ce qui n'a pas été fait.
Merritt étudia lui aussi les niches funéraires.
Magda, j'aimerais que ta démonstration ne soit pas si logique.
Tu m'as bien dit que les sorts de garde ne peuvent rien contre ton épée parce qu'ils n'ont pas été conçus pour neutraliser sa magie si particulière.
C'est exactement ça.
Il y a des sortilèges et des champs de force partout dans la forteresse. Qui ont-ils mission d'arrêter?
Nos ennemis.
Mais plus précisément.
Merritt comprit où Magda voulait en venir.
Nos ennemis vivants. Ils détectent la vie puis réagissent à une intrusion.
La mort ne les active pas. Avec la guerre en cours et les meurtres qui se multiplient dans la forteresse, le conseil a fait placer de nouvelles protections partout. Dans les sous-sols, il faut faire de plus en plus de détours pour éviter les champs de force. Mais le meurtrier, ou peut-être les meurtriers, n'ont pas été gênés. Et les sorts de garde n'ont pas aidé nos soldats à les repérer.
Quoi d'étonnant si nous avons affaire à des morts?
Bien raisonné. Un cadavre ne déclencherait aucune de nos protections.
Après tout, à quoi ça servirait, surtout ici dans des catacombes?
Comment agissent les champs de force?
Les plus puissants tuent les intrus.
Merritt sursauta.
Mais pour être tué, il faut vivre pour commencer.
Sur quoi travaillait Isadora? Que tentaient de faire les sorciers qu'elle aidait?
Merritt montra à Magda sa chevalière gravée d'une grâce.
Ils essaient d'altérer l'ordre naturel des choses, le flux même de la vie, du don et de la mort. Je ne connais pas les détails, mais j'imagine qu'ils enquêtaient sur ce qui inquiétait tant Isadora, la disparition des cadavres et des âmes de ses amis.
D'après certaines rumeurs, ces sorciers auraient réussi à ramener des morts à la vie, enfin à un semblant de vie. Et si une de ces expériences avait mal tourné? Si c'était la cause des meurtres?
Merritt dévisagea un long moment Magda.
« Je crois qu'il est temps de parler à cette magicienne, » dit-il enfin.